Michel Aubry, bonjour.
Bonjour.
Plus de 900 pages pour raconter la folle équipée de deux cinéastes qui vont transformer l'histoire du cinéma en 1933 avec leur film monumental King Kong. King Kong, vous aviez quel âge, Michel Aubry, quand vous l'avez vu pour la première fois?
Alors, je l'ai vu pour la première fois, alors je serais bien en peine de donner la date, dans les années 60, quand j'étais étudiant, je l'ai vu à la Cinémathèque, je suis sorti en état de lévitation. Je n'avais jamais vu un film avec une telle... C'est comme une décharge de puissance onirique absolument incroyable.
Michel Aubry, est-ce que vous comprenez pourquoi il fascine tant King Kong?
Parce que
c'est le roi des gorilles.
Parce que c'est un mythe. Parce que Kong, c'est quoi? Le film, c'est un film sur le tournage d'un film d'explorateurs qui arrivent dans une île maudite. On a l'impression qu'ils accumulent les clichés, mais c'est volontaire. C'est qu'est-ce que cherche un explorateur? L'inconnu. Seulement, en général, l'inconnu, quand on le trouve, ça devient connu. L'ailleurs, en Amérique.
Et à travers l'odyssée de ces deux hommes, Marianne C. Cooper et Ernest Schoedsack, vous racontez aussi un âge révolu de Hollywood. Vous racontez un âge où on demandait autant à un cinéaste de savoir bien manier le pistolet que la caméra.
Ah oui, tout à fait.
Est-ce que c'est ça qui vous fait rêver aussi, Michel Aubry?
C'est une période extraordinaire.
Est-ce que vous auriez aimé vivre cette époque, Michel Aubry? Mais vous, les cinéastes, c'était vraiment des aventuriers tels que vous les décrivez.
C'était ça, c'était Hollywood aussi, parce qu'ils vont bien sûr travailler pour Hollywood à un moment donné. Ça se passera mal d'ailleurs au début, parce que c'est vraiment pas leur univers, et va commencer alors l'aventure folle d'un film qui était infaisable normalement.
Justement, Michel Aubry, Kong, il a eu une vaste progéniture, si je puis dire, puisqu'il y a eu Le Fils de Kong, King Kong contre Godzilla, on va pas les citer tous, mais jusqu'en 2017, King Kong Skull Island. Oui. Est-ce que vous les connaissez tous par cœur?
Pratiquement, sauf Skull Island, j'ai pas eu envie de le voir, parce que, en dehors de l'adaptation de Peter Jackson, qui manifeste une intelligence réel de ce qui était en jeu dans Kong, les autres non. Alors King Kong contre Godzilla, là c'est tellement fait par des allumés que ça finit par effectivement
avoir son charme.
Oui, ça a son charme. Le reste non. Ils sont complètement à côté de la plaque par rapport à ce que visait. Je vous dis que King Kong, c'est Moby Dick, c'est une figure mythologique. C'est pas juste un singe qui fait des cabrioles. C'est pas ça le fond de l'histoire.
Vous racontez d'ailleurs qu'à sa sortie, le film va être un immense succès.
Oui,
et qu'il va y avoir à New York ce que vous appelez une gorille mania. C'est-à-dire que les gens sont fous de gorilles. Comment vous expliquez ça, ce succès immense?
Il y avait déjà une passion pour les gorilles avant. Qui tenait, je dirais que c'est une fascination pour le sauvage en tant que tel. Et ça encore, c'est la conséquence de la guerre 14-18. Si le monde qui se dit civilisé a basculé dans une telle barbarie, il faudrait qu'on la ramène un peu moins sur nos valeurs civilisatrices. Il y a une passion croissante pour l'ethnologie à ce moment-là, l'exploration, etc. C'est ça qu'on cherche en se projetant dans le monde. Et Kong, quelque part, en est la quintessence et résume une époque. Et ça va être un succès. C'est absolument colossal, qui va permettre à la RKO de poursuivre.
Ça se nourrit comment, un roman comme Kong?
De beaucoup d'énergie, de beaucoup de rêves, j'espère de puissance narrative, parce que j'ai mis 8 ans à faire ce livre.
La part de l'imaginaire, elle est où?
J'ai tendance à dire que tout est vrai et tout est imaginé en même temps. Si vous voulez, vous accumulez une documentation démente. J'ai lu, par exemple, tout le New York Times et le Los Angeles Times de 29 à 33 pour savoir comment les gens vivaient l'époque, etc. Mais j'ai accumulé C'est des dizaines de mètres de livres, fouiller les archives, etc. Bon, pour avoir une vision, pour voir, pour sentir cette époque, pour s'en imprégner, pour y être. Vous me disiez, est-ce que vous auriez aimé vivre dans cette époque? Mais j'ai vécu dans cette époque pendant 8 ans. Je me suis endormi en pensant à Anne Darrow, Ferret, Rude Rose
et tous les héros de King Kong.
Et le problème, c'est que je les ai toujours en tête maintenant. J'essaie de les faire partir un peu, et puis je me réveille la nuit, et je continue à rêver à des scènes, puis je me dis, mais le livre est fini. Oui, mais ça fait 8 ans que je suis King Kong, que je suis Shudsak, que je suis Marianne Cooper, et voilà, ils veulent pas s'en aller comme ça. Mais tout ça, je dirais en même temps, ce n'est rien. C'est-à-dire, c'est rien. Pour moi, les faits sont comme les piquets d'un slalom. Et alors, avec le travail que j'ai fait, je peux vous dire, il y en a des centaines, sinon des milliers de piquets de slalom comme ça. Mais la fiction, c'est le tracé du slalomeur entre les piquets. Le challenge, c'est de respecter les piquets et que ce soit en même temps totalement romanesque et totalement un roman. Alors, ça, si j'ai réussi, ça c'est une autre question, mais c'est ce que je me suis imposé, oui.
Mais si le pari est réussi, merci beaucoup, Michel Lebry. Et je rappelle le titre de votre magnifique roman, Kong, paru aux éditions Grasset.
Merci.